Les règles, c'est naturel, mais pas la douleur. Il faut bien garder ça en tête. Mais c'est inconsciemment, dans tout le cerveau de l'humanité, de tous les praticiens comme les autres, la femme elle-même, elle considère que c'est normal que les règles soient douloureuses. La femme qui se présente pour des règles douloureuses, bah, c'est vite balayé. Bah oui, vous êtes une femme, quoi. Voilà. Bon, on ne va pas chercher une maladie. Il faut commencer par éradiquer ce mythe-là.
C'est une maladie qui touche au minimum une femme sur 10 en âge de procréer. Certaines estimations évoquent plutôt le double. Connue dès l'Antiquité, l'endométriose a été décrite dès la fin du 19e siècle. Il s'agit d'une migration de cellules utérines en dehors de l'utérus qui provoque de fortes douleurs au moment des règles. Elle serait la principale cause d'infertilité féminine. En plus d'un siècle et demi, des générations de femmes en souffrance ont entendu un discours largement répandu. Quand on a ses règles, c'est normal d'avoir mal. Pourtant, les symptômes qui en effet se développent au moment des règles peuvent être très invalidants. Des patientes sont forcées d'arrêter de travailler, d'autres doivent adopter des stratégies de contournement pour dissimuler la douleur, car il leur est encore difficile d'aborder le sujet en toute transparence.
Je vne vous cache pas que c'est pas facile. En fait, j'ai quand même un métier de terrain et je suis dans un bureau partagé. Donc on rase les murs, on se cache, on passe un peu de temps dans des petits recoins. Et voilà, c'est un quotidien qui est assez difficile en période de crise surtout.
Certains praticiens sous-estiment toujours l'importance de la maladie. Bref, de nombreux facteurs compliquent la reconnaissance puis le traitement de cette affection pourtant si commune. On estime à 7 ans en moyenne le délai de diagnostic. Les associations de patientes qui commencent seulement à être entendues militent donc pour obtenir un budget fléché pour la recherche sur la maladie et pour une formation spécifique des médecins.
Il faut attendre 2021 pour que des médecins entendent parler correctement d'endométriose dans les cours à la fac.
Une grande diversité de traitements allant jusqu'à la chirurgie est utilisée pour tenter de soulager les centaines de milliers de femmes dont la vie quotidienne est dégradée. Pour la plupart, elles doivent notamment suivre un régime alimentaire très strict. C'est le cas de Marine, vous allez l'entendre. Elle est en train de préparer son repas quand Manon Vautier-Cholet arrive chez elle. Endométriose, la maladie féminine qui sort enfin de l'ombre, c'est un reportage de Manon Vautier-Cholet avec une prise de son signée Romain Lucquins et Georges Thau.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Bonjour Marine.
Bonjour, bienvenue à la maison. Allez-y, entrez. Alors, je les ai oubliés. Ils font un peu la gueule. Voilà, un peu de gingembre, d'épinards. Je nettoie des petites blettes pour préparer une soupe.
Que des légumes ?
Beaucoup de légumes. Il y en a qui font cuire leurs oignons avec du beurre. Moi, j'ai appris à le faire avec de l'huile de coco. Ça fait une soupe 100% vegan, quoi.
Et 100% anti-inflammatoire.
Aussi, ouais. Quand j'ai appris que j'avais de l'endométriose, que j'ai commencé à consulter des médecins, je me suis renseignée sur les meilleurs moyens de vivre avec cette maladie. Comme c'est une maladie inflammatoire, évidemment, un régime anti-inflammatoire, ça va permettre de diminuer les symptômes et les problèmes liés à cette maladie. Oubliez les épices quand même, hein. J'ai appris que j'avais de l'endométriose un peu par hasard. En l'espace de 6-7 mois, j'ai eu 3 épisodes de constipation sévère au point que, en fait, le premier jour où ça m'est arrivé, ça m'est un peu tombé dessus au milieu de la journée. Impossible de me relever, d'aller travailler ou quoi. Je me suis retrouvée avec une douleur tellement forte que je me demandais si j'avais pas de l'appendicite ou si j'avais pas un problème aux ovaires ou autre. Au bout du 3e épisode de crise comme ça, de constipation, le médecin m'a dit « Vous avez peut-être un problème digestif, je vous donne une ordonnance pour une échographie. » Là, le médecin qui faisait l'examen, elle a vu en fait que j'avais des kystes, mais elle a pas osé me le dire parce qu'elle était pas certaine. Donc 3 jours après, j'ai fait un IRM et là j'ai eu la chance de tomber sur une spécialiste qui m'a dit en fait vous avez 2 énormes kystes sur le verre gauche, 5 et 6 cm, donc c'est pas rien. C'est dû à de l'endométriose. Voilà comment j'ai appris que j'avais de l'endométriose. Et sur le moment, en fait, je reste assez positive. Je me dis, bah, c'est là, c'est comme ça, on va faire avec, ça va aller, quoi. Les règles douloureuses, être bloquée 1 ou 2 jours par mois, c'était devenu un acquis, c'était plus un problème, quoi. On s'habitue.
Elle était forte à quel point, cette douleur en 2 jours par mois ?
Ça m'a empêchée de travailler quelquefois. Après, en fait, on s'habitue un peu à la douleur. On prend de l'Antadis, c'est un médicament qui est un peu plus fort que le Spasfon. On anticipe, on le prend au bon moment, on sent le truc venir et on fait en sorte que bouillotte, repos, on fait en sorte que ça ait le moins d'influence sur notre vie, quoi. On s'habitue, mais c'est pas normal, quoi.
Et donc aujourd'hui, vous avez appris à avoir cette alimentation où tout est anti-inflammatoire ?
Oui, je suis passée à ça pour essayer de limiter un maximum la venue des symptômes et autres.
Donc c'est quoi, c'est pas de temps ?
Donc ça veut dire le fameux gluten, tout ce qui est à base de blé, on oublie. Tout ce qui est viande, l'alcool, le tabac, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le café, la théine. J'essaie d'être un maximum dans les aliments qui vont soit aider à ce que ce soit anti-inflammatoire, soit ne pas en rajouter plus, quoi. Le mixeur, ça va quand même plus vite. Hein. Si tu manges pas bien, et ben en fait, les jours d'après, tu vas le payer avec soit des problèmes de digestion, soit des douleurs. J'ai découvert ce que c'était d'avoir des douleurs pendant les rapports sexuels. C'est pas du tout évident. Si on n'est pas avec un partenaire régulier et autre, en fait, il faut s'exposer, enfin expliquer ce qui nous arrive. Et puis à certaines femmes, en fait, elles peuvent plus avoir de pénétration normale ou de rapport sexuel classique, on va dire, parce que ça fait trop mal, quoi. C'est une maladie qui peut toucher à plein de parties de votre vie, quoi. Moi, je l'ai appris il y a 1 an. À 34 ans, les femmes, elles ont beaucoup de mal à se faire entendre, à se faire diagnostiquer, parce que du coup, c'est pas une maladie qui intéresse beaucoup. C'est une maladie de femme, quoi. Et les médecins, ils sont pas tous au courant de ce que c'est, de ce que ça implique dans la vie quotidienne. Quand j'ai commencé à voir les médecins pour savoir comment j'allais me débarrasser de ces kystes, j'en ai vu un premier dans un cabinet privé qui m'a dit on retire tout. Et puis j'ai vu un autre médecin, j'ai décidé de faire en sorte d'être suivie à Saint-Joseph, un centre spécialisé en endométriose. Et du coup, le médecin que j'ai vu à Saint-Joseph m'a dit non, on n'opère pas, on va faire en sorte que vous puissiez avoir toutes les chances pour avoir des enfants si vous le souhaitez après. Vaudrait mieux prendre la pilule. Parce que la pilule arrête les règles et du coup, la maladie se propage pas, quoi. Après...
Ça vous convient pas, ça ?
J'attends de voir ce que va donner cette nouvelle échographie à 10 mois de traitement, savoir quelle influence ça a. On s'habitue à tout, mais voilà, se réadapter. On vit avec, c'est comme si on avait un petit oiseau posé sur l'épaule et qu'il allait nous rappeler que tu t'es pas assez reposé, j'ai un peu trop mangé de chocolat. On y fait attention tout le temps, quoi. Moi, là, j'ai mon échographie de contrôle pour savoir si les kystes ils sont vraiment en train de s'en aller. J'ai un peu d'anxiété. Je me dis, s'ils ont pas diminué, qu'est-ce que tu fais ? S'ils ont diminué, super. Est-ce que on arrête de prendre la pilule ? Est-ce qu'on passe à des choses un peu plus naturelles, histoire de retrouver sa libido, sa bonne humeur, savoir comment se positionner et puis de gérer la douleur.
Marine, donc nous arrivons à l'hôpital Saint-Joseph où vous attend le docteur Éric Petit pour votre rendez-vous.
Oui, on va rentrer dans le centre de santé Marie-Thérèse qui est spécialisé sur l'endométriose.
On vous suit.
L'entrée, elle est juste là et après il y a le passage carte vitale et compagnie.
D'accord. le petit check à chaque fois.
Et ensuite, la deuxième salle d'attente pour avoir rendez-vous avec le docteur.
Je suis donc le docteur Éric Petit, radiologue, spécialisé en imagerie de la femme et sur-spécialisé dans l'endométriose. C'est ma pratique exclusive depuis au moins 10 ans maintenant. Et donc j'ai créé le centre de l'endométriose de l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Je suis biappartenant à la fois en public à l'hôpital donc Saint-Joseph et puis en ville à mon cabinet, 50%.
Bonjour.
Bonjour docteur.
Donc vous allez rentrer dans cette cabine, vous préparez comme habituellement. Et après, on se voit dans le bureau de consultation, okay. On fait le point et après, on commence l'examen. Voilà.
Concrètement, cette maladie, c'est quoi ? C'est quoi l'endométriose, en fait ?
Alors, l'endométriose, la définition brute et simple, c'est que l'endomètre, qui sont les cellules qui tapissent la cavité utérine, n'est plus à sa place. Il migre ailleurs. Alors, il migre où ? D'abord, dans le muscle utérin. Ça, c'est ce que l'on appelle officiellement adénomyose. Et ensuite, à l'extérieur de l'utérus, puisqu'il y a un reflux des règles par les trompes qui font que les cellules de l'endomètre sont exportées ailleurs et peuvent, dans certaines conditions, s'implanter à la surface des organes. Ça s'appelle le péritoine. Et puis ensuite, ça peut rentrer en profondeur dans les organes, et en particulier dans les muscles des ligaments qui attachent l'utérus à la paroi pelvienne et d'autres organes tels que le rectum, par exemple, la vessie, les ovaires, les trompes. Et donc, ces implantations de cellules ailleurs font qu'elles saignent au moment des règles et ça entraîne une réaction inflammatoire qui devient chronique, perpétuée en permanence par ce reflux des règles. Et ce processus inflammatoire est à l'origine, entre autres, notamment de ces douleurs épouvantables, le plus souvent dans tous les secteurs de la vie quotidienne de la femme. Et donc, c'est comme ça que ça se fabrique. Et c'est pour ça qu'il faut interrompre ce cercle vicieux dès les premières règles.
L'endométriose, techniquement, si je peux dire, elle commence au moment des règles.
Oui, c'est-à-dire que c'est une maladie qui est hormonodépendante. Donc c'est une maladie qui commence dès les premières règles et ne cesse qu'à la ménopause.
Je vais juste fermer la porte. Voilà. Après, vous me suivez, hein. Bon, alors, asseyez-vous. Voilà. Donc vous êtes toujours sous le même traitement ?
Oui.
Que vous tolérez bien, donc ça va ?
Oui, bon, ça va.
C'est une bonne nouvelle.
Elle se guérit l'endométriose ou pas ?
Se guérit pas. Non, ça ne se guérit pas. Ça se freine, ça se stoppe, ça se soigne, mais on ne la guérit pas. Ou alors il faudrait encore enlever l'utérus et les ovaires, bon, ce qui n'est évidemment pas à faire. Elle est tout au long de la vie procréative de la femme.
Ok, donc on va vérifier que tout va bien, que ça s'améliore encore, parce que logiquement...
Il est censé diminuer,
ah,
ouais.
Ah oui, encore. C'est stable, hein.
Ouais. Donc, voilà. Je le sens, là, depuis quelques jours.
Ouais, d'accord.
Je sais pas
malgré l'absence de règles.
Ouais. Il y a des périodes où parfois je le sens, quoi. Bon, régulièrement.
D'accord. Ok. C'est
tout. Merci.
Comme d'habitude, voilà, merci.
On sait d'où vient l'endométriose ou pour l'instant on a des hypothèses ?
On a plein d'hypothèses. L'origine, je ne sais pas si on la saura, mais elle est multifactorielle. De toute façon, c'est à la fois génétique, environnementale, immunologique. C'est une maladie plutôt complexe pour qu'on puisse la résumer à une seule cause. Bon, on a quelques gènes qui ont été débusqués, mais on est loin du compte encore pour savoir la genèse complète de cette maladie. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de traitement radical qui guérit.
Pelvienne. Pelvienne. Ah, moi j'ai un petit peu le montrer à gauche, à l'intérieur, à droite.
Ouais.
Patiente âgée de 35 ans, vue précédemment le 16 avril 2021, témoignant de la réduction volumétrique de la confluence de deux endométriums ovariens gauche au préalable dépisté en octobre 2020 par IRM. Avec par ailleurs une atteinte intra-utérine, superficielle, péricorticale ovarienne, adhérentielle à l'ovaire gauche. Point à la ligne, la patiente était nettement améliorée quant aux symptomatologies usuelles grâce à la prise d'un traitement hormonal en continu, bien toléré, donc depuis maintenant presque un an. Point. La patiente envisageant par ailleurs une préservation de la fertilité. Point.
L'opération, là, c'est dans
alors, l'opération est en plus. Parfois, on est obligé d'opérer certaines patientes qui ont des formes très sévères, qui ont une masse de lésions importante, et donc quand c'est bien fait, ben, ça fonctionne. Et vous arrêtez la règle après, évidemment, sous pilule en continu, pour éviter que la maladie revienne, parce qu'elle reviendra.
Ça ne disparaît pas, en fait,
ah non, vous ne supprimez pas les ovaires et l'utérus, donc ça revient. L'évolution de la maladie est très variable, en fait, d'une patiente à l'autre. Il y a tous les degrés, c'est-à-dire qu'on peut avoir une forme très sévère, rapide, précoce, puis d'autres qui sont peu évolutives, ou à peine, voire pas du tout. Mais la douleur n'est pas corrélée à ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir des formes sévères d'endométriose sans douleur, ou quasiment sans, et puis d'autres qui sont très douloureuses, alors qu'il y en a très peu. C'est pour ça qu'il y a autant d'endométriose quasiment que de femmes, c'est ce qu'on dit dans notre pratique, dans notre club de spécialistes. Tout est variable d'une patiente à l'autre.
Tout est au cas par cas, en fait.
Eh oui. C'est très au cas par cas, parce qu'il y a aussi des problèmes de fertilité, qui ne sont pas le problème de la majorité, heureusement, mais c'est quand même la première cause d'hypofertilité. C'est une maladie compliquée, parce qu'elle est très disparate d'un cas à l'autre, et donc les décisions thérapeutiques sont pas simples à prendre. Il faut plusieurs techniques pour aboutir à améliorer la qualité de la vie de la patiente. C'est pour ça qu'on a tous les praticiens paramédicaux dans le réseau, notamment la nutrition, par exemple l'alimentation, ça joue énormément. La prise en charge de la douleur, il y a au moins 15 techniques qui permettent de l'améliorer. Les symptômes cardinaux sont quand même bien connus, même depuis très très longtemps, hein, parce que les Grecs avaient déjà fait au 5e et 6e siècle avant Christ, ils avaient quasiment tout le corpus clinique, on savait comment ça se présentait. Ces règles douloureuses qui entraînent un absentéisme, par exemple à l'école, c'est un marqueur très fort, donc il faut en tenir compte, et écouter et ne pas dire que la jeune fille est normale qu'elle est mal. Quoi. Les règles, c'est naturel, mais pas la douleur. Il faut bien garder ça en tête, mais c'est inconsciemment, dans tout le cerveau de l'humanité, de tous les praticiens comme les autres, de la femme elle-même, elle considère que c'est normal que les règles soient douloureuses. La femme qui se présente pour des règles douloureuses, c'est vite balayé, oui, vous êtes une femme, quoi. Voilà. Bon, on ne va pas chercher une maladie. Il faut commencer par éradiquer ce mythe-là.
Voilà, donc je vais vous donner votre compte-rendu nouveau. Et puis après, bon, on se reverra peut-être l'année prochaine en fonction de...
Oui.
Pour vérifier où ça en est. Comme...
Voilà. Que ça n'est pas... Parce voilà. Que l'arrêt du traitement, évidemment,
oui.
Ça va
voilà,
avoir une influence.
Ouais. Bon, après, pas toujours, mais il faudra quand même qu'on contrôle. Voilà.
Marie, est-ce que vous êtes rassurée?
Oui. Bah oui, ils ont encore diminué de moitié, donc
bon.
C'est positif.
Et donc, on en parlait tout à l'heure, ça veut dire aussi pas d'opération en question?
Ah non, ouais, c'est sûr que c'était vraiment pas l'idée de départ, en commençant le traitement, de se faire opérer à la fin, quoi.
Bravo.
Merci.
Merci à vous.
Je vous souhaite un bon week-end.
De votre patience.
Ksenia Vukurovic est psychiatre et elle s'est spécialisée dans la prise en charge des douleurs causées par l'endométriose, l'une des seules spécialistes dans sa région. Comme elle se déplace un petit peu partout en Champagne-Ardenne, on l'a appelée entre deux rendez-vous.
Alors, je suis docteur Vukurovic, je suis médecin psychiatre. Je suis également spécialisée dans la prise en charge de la douleur, c'est-à-dire que j'ai fait une formation supplémentaire et je travaille avec docteur Majidi qui est à la clinique de Besançon autour de la prise en charge de la douleur chez des patientes qui souffrent de l'endométriose.
Docteur Vukurovic, donc vous vous suivez des femmes atteintes d'endométriose. Comment elles vous décrivent les douleurs qu'elles peuvent avoir au quotidien?
Alors, classiquement, ce sont des douleurs chroniques. Les patientes décrivent le plus souvent des coups d'électricité, des coups de poignard, souvent un rapport avec aussi un retentissement émotionnel très important et une souffrance qui va avec.
On parle souvent d'échelle, notamment pour faire le diagnostic. Une patiente atteinte d'endométriose, de 1 à 10, elle va avoir mal comment?
Moi, classiquement, je suis vraiment les patientes qui sont en souffrance avec un retentissement fonctionnel. C'est-à-dire qu'au quotidien, ils ont des douleurs et elles n'arrivent pas à fonctionner bien. Et ces patientes-là décrivent des douleurs à partir de 7 sur 10. Souvent, c'est un fond douloureux autour de 5-6 avec des crises douloureuses qui peuvent aller jusqu'à 10 sur 10.
Comment on suit ces patientes atteintes d'endométriose et qui peuvent avoir mal certaines tous les jours?
Et ben, c'est un suivi au long cours. Et là, nous allons chercher à mettre à leur disposition tous les outils que nous connaissons dans la prise en charge de la douleur chronique, hein, quelle que soit la cause, pour soulager ce fond douloureux. C'est-à-dire que notre travail, ça va être de leur apprendre à vivre avec la douleur et de la gérer. Et puis d'autre part, nous allons effectivement mettre en place des médicaments, mais aussi des prises en charge par balnéothérapie, kinésithérapie. On a aussi des méthodes qui permettent de modifier la manière dont le cerveau perçoit la douleur. Et puis, on va les accompagner sur le plan émotionnel, parce que la douleur, elle a une composante sensorielle, c'est celle qui fait mal physiquement, et puis elle a une composante émotionnelle, c'est celle qui associe les angoisses et la dépression à la douleur, et donc on va bien évidemment prendre en charge les complications psychiques, mais on va aussi leur apprendre comment diminuer le retentissement émotionnel de la douleur, par la relaxation, par l'hypnose, par méditation, donc tous ces outils-là. La douleur est chronique dans l'endométriose. Vous savez, c'est souvent des femmes qui ont commencé à avoir des douleurs à l'adolescence avec les règles. Donc, sans prendre en charge la composante émotionnelle de la douleur, sur le plan physique, mes collègues, ils peuvent les opérer, même enlever chirurgicalement l'ensemble de l'endométriose. La douleur persiste parce qu'elle est déjà inscrite dans le cerveau.
Interception sur France Inter.
Pendant des décennies, on a donc laissé les patientes en tête-à-tête avec leurs douleurs sans prendre en compte ces causes multifactorielles et donc les multiples possibilités de réponse. C'est sur cette approche que Xenia Vukurovitch, qu'on vient d'entendre, travaille. Elle fait équipe avec le docteur Abdi Majid. À Reims, l'hôpital privé où ils exercent est réputé pour sa prise en charge des patientes souffrant d'endométriose et d'infertilité. On y retrouve Manon Vautier-Cholet.
Alors voilà, comme ça vous serez mieux ici.
Merci.
Voilà.
Dans certains cas, les femmes sont obligées de se faire opérer. Comment ça se passe? Comment on décide de choisir cette solution?
Alors en fait, l'objectif principal dans la prise en charge d'une endométriose, c'est d'essayer de ne pas opérer une patiente. Une intervention à ces risques. Et dans chaque cas, il faut évaluer les risques en fonction d'un bilan bien précis. L'objectif, c'est que pour chaque patiente, il faut faire une stratégie, pas à court terme, mais à moyen et à long terme. La solution chirurgicale fait partie d'un arsenal thérapeutique, mais c'est pas une fin en soi.
Si j'ai bien compris, une chirurgie, on va la décider quand elle devient presque inévitable dans le parcours de la patiente.
Inévitable si la chirurgie peut apporter quelque chose, que ce soit dans le cadre de sa douleur, parce que les autres traitements ont échoué. Évidemment, s'il y a un organe en danger sur le plan urinaire, sur le plan digestif, sur le plan nerveux, il faut le proposer, parce que là, il y a une urgence. Et dans le cadre de l'infertilité, pareil, si la chirurgie peut lui apporter quelque chose.
En fait, comment ça se passe? On parle beaucoup de prise en charge holistique. L'idée, c'est quoi? C'est de prendre le parcours de la patiente dans sa globalité?
Les souffrances vécues par une patiente ne peuvent pas être détachées de son histoire. Donc c'est son histoire qui fait comment elle supporte la douleur, comment elle gère sa douleur, comment elle mène sa vie. Et donc en fait, vous ne pouvez pas les séparer. Les médecins de douleur vous diront que voilà, la partie émotionnelle est très importante. Plus elles apprennent à gérer leurs émotions, mieux elles arrivent à contrôler leur douleur. Donc ça, c'est quelque chose de très important, parce que tout n'est pas médicamenteux. Donc évidemment, dans notre prise en charge, l'objectif, c'est de retrouver un bien-être. Ça peut être tout. Il y a des patientes qui sont soulagées après une cure thermale, d'autres par l'acupuncture, d'autres par l'ostéopathie, les groupes de parole, des choses comme ça. Tout n'est pas médical.
Docteur Majidi, toutes les femmes atteintes d'endométriose ne veulent pas un enfant, mais la question de la fertilité se pose très régulièrement, c'est même parfois un stress. Quelle solution existe aujourd'hui?
Évidemment, les patientes atteintes de l'endométriose, si elles ne sont pas enceintes naturellement ou si la possibilité n'existe pas, il y a des solutions possibles, une prise en charge en PMA si la demande est immédiate et si il n'y a pas de projet de grossesse immédiat, on peut être amené à congeler les ovules pour l'avenir si les ovaires sont en danger.
C'est un parcours particulier, celui des femmes, qu'elles soient en couple ou pas, qui souhaitent avoir un enfant?
La PMA, c'est comme la chirurgie, c'est une étape, une partie de la prise en charge de patiente. Le mode de prise en charge en PMA est d'abord basé sur le bilan préalable, sur l'histoire de la patiente, et ensuite un traitement avec le moindre risque pour la patiente. Après, on suggère à nos patientes chez qui le diagnostic d'endométriose a été évoqué, si la possibilité existe, quand des conditions sont réunies, d'aller vers une grossesse et de ne pas tarder, parce que avec l'âge, la maladie peut s'aggraver, d'autres facteurs peuvent intervenir pour altérer leur fertilité. Donc, une patiente qui a déjà un souci, on va lui proposer, dès que les conditions sont réunies, qu'elle pense à faire un enfant. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans l'avenir. Peut-être quelques années après, la possibilité n'existe plus.
Ah. Coucou bébé. Alors, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour.
Elle vient de manger un petit peu.
Regarde, ton papa, il est complètement gaga de toi. Arre, tu nous as fait un beau arre. Ah oui. Alors là. Oh. Oh, c'est papa, tu l'as reconnu.
Regarde papa et maman.
Oui. D'être jeu que pour nous, franchement. Allez Anne.
Oh. Oh là là.
Voilà. C'est bon.
Voilà, Léa, ma maman, vous avez toute la famille là.
Je suis Tiphaine Chailloux, j'ai 30 ans et je suis atteinte d'endométriose. J'ai découvert que j'en étais atteinte il y a 3 ans et j'ai vécu une errance médicale de 8 ans qui a été compliquée à vivre. Et aujourd'hui, je consacre une partie de ma vie à la lutte contre l'endométriose et à l'information des femmes, parce que pour moi, c'est un des plus gros problèmes de cette maladie, c'est qu'elle touche des millions de femmes, qu'on informe très mal, qu'on met des années à se rendre compte qu'on est atteinte d'endométriose et malheureusement, elle a pu s'installer.
Et moi, je suis Pierre-Louis, le mari de Tiphaine et jeune, tout jeune papa.
Moi, j'ai tout de suite pensé à l'infertilité, parce que c'est une des conséquences de l'endométriose, mais il y a beaucoup d'autres conséquences. Le monopole, c'est la douleur, mais on pense à l'infertilité. Et donc, c'était le grand vide. En fait, je savais absolument pas quoi faire, et j'ai fini par appeler mon copain de l'époque, qui aujourd'hui est mon mari, et le père de ma fille, et lui dire qu'en fait, on allait peut-être devoir se séparer, parce que j'étais sûrement infertile, que j'avais une maladie, que je savais pas quoi faire.
Et vous, Pierre-Louis, comment vous réagissez quand votre copine vous appelle en vous disant « Bon, je viens d'apprendre que j'ai une maladie, je suis peut-être infertile et je veux qu'on se quitte
». Au premier abord, en tout cas, tout de suite, j'ai été surtout désolé pour elle. Et en même temps soulagé parce qu'il y avait enfin une réponse à ses douleurs. Et par contre, sur la question de mettre fin à notre relation à cause de l'endométriose, la réponse a été non tout de suite. Il n'y avait pas de... C'était surtout de savoir « Bah, attends, qu'est-ce qu'on fait ? Et moi, je t'accompagne et je te soutiens là-dedans. »
Tiphaine, vous avez 26 ans quand vous apprenez que vous avez l'endométriose. Et là, assez rapidement, on vous parle enfant, alors que c'est peut-être pas encore dans votre tête.
Exactement. Au début, on nous parle de la maladie. Puis très vite, le sujet de l'infertilité vient se glisser dans la discussion. Et à 26 ans, le médecin m'a clairement demandé si j'étais en couple et si j'avais pas un peu envie d'accélérer les choses et de faire un enfant tout de suite. C'est là où ça devient très compliqué d'arbitrer, puisque déjà, pendant 7 ans, on a été en errance médicale, on est un peu déçu et perdu quand on nous apprend qu'on a en fait une maladie et que c'était pas juste des règles douloureuses. Et ensuite, on nous met la problématique de la maternité et du bébé sur la table. Moi, j'étais pas prête. Et c'est très compliqué d'arbitrer en couple et de savoir comment en fait gérer ses priorités. Est-ce que on décide d'avoir un enfant alors qu'on n'est pas prêt, qu'on a encore envie de vivre des choses avant et qu'on sait même pas si on a envie d'avoir un enfant? Est-ce que notre couple a vocation à avoir un enfant? Est-ce qu'on a envie de vivre ça? Est-ce qu'on se lance en PMA parce qu'en fait c'est peut-être le dernier moment?
À quel moment vous décidez tous les deux de vous dire ça y est, on est prêt et on se lance dans votre cas dans un parcours PMA?
Moi, pendant un an en fait, je me sentais pas prête, donc j'ai laissé couler. Pierre, lui aussi, me disait que c'était quand même un peu tôt, tout ça, que ça arrivait vite. Je sortais de mon opération d'endométriose. On avait vécu 2 ans face à la maladie qui était quand même intense. Donc on a laissé un peu du temps au temps, et puis le Covid est arrivé, et là ça a été la douche froide, et on s'est dit, merde en fait, peut-être que là, on va pas pouvoir avoir d'enfants, parce que sans la médecine, on ne peut pas avoir d'enfants, et en fait, si le Covid dure 10 ans, et ben pas d'enfants. Et là, moi, j'ai commencé à sentir une urgence, puisque la lumière s'est allumée, j'ai eu envie d'avoir un enfant, et dès que le confinement s'est terminé, on s'est dit, bon bah on prend rendez-vous, et cette fois on repart au centre PMA et on dit qu'on est prêt. Tout de suite, il y a eu de la réaction, on a eu de la chance d'une certaine manière, puisque quelques semaines après notre décision, on est rentré en parcours PMA et on a commencé la stimulation.
Et au final, pour vous, la bonne nouvelle tombe du premier coup ?
Alors, tout de suite, on a eu la réponse positive, c'est-à-dire que dès le premier cycle, la première FIV, je suis tombée enceinte. On veut pas y croire sur le moment, parce que moi, on m'avait vraiment dit que ça serait très compliqué, même avec une FIV. Quand j'ai vu les deux barres s'afficher, d'ailleurs, je me suis pas réjouie. Là, aujourd'hui, je commence à me sentir légitime, mais à peine alors que mon bébé est là.
Voilà. Donc, la petite Léane a un mois presque et demi. Félicitations.
Merci.
Comment ça se passe? Vous profitez après tout ça?
Donc, il faut s'en remettre quand même. C'est une vraie épreuve dans la vie, une physique, je veux dire. Mais c'est le bonheur total. Et puis, et ça, c'est fort. C'est qu'avant 1978, je n'aurais peut-être jamais été maman.
Et vous, Pierre-Louis, comment ça se passe?
Je vis un grand moment de bonheur. Ça reste sport quand même, hein. Mais voilà, c'est un grand bonheur.
Ouais.
Et puis Pierre-Louis, pendant la PMA et pendant les traitements contre l'endométriose, il m'a toujours aidé à pas culpabiliser, parce que c'est vrai que quand on est la cause de l'infertilité du couple, à savoir c'est ma maladie qui a bloqué aussi notre envie d'avoir un enfant, on a tendance à se sentir responsable.
Dans un premier temps, on tombe amoureux de la personne, de sa personnalité, et pas de sa possible fertilité ou d'infertilité. Du coup, après, le reste, c'est pas secondaire, mais presque, quoi. C'est, du coup, Tiffaine, elle reste Tiffaine, fertile, pas fertile, endométriose ou pas endométriose, ça reste elle.
La vie personnelle des femmes atteintes d'endométriose est, comme on l'a vu, gravement altérée, jusque dans leur désir d'enfant. Mais cette maladie a aussi une incidence sérieuse sur leur vie professionnelle. Les employeurs commencent à se rendre compte de l'importance, notamment, de l'absentéisme qu'elle engendre. À l'instar de la mairie de Paris qui emploie près de 50 000 personnes. On retrouve Manon Vautier-Cholet à l'hôtel de ville où était organisée cet automne une réunion de sensibilisation pour les agents.
On va démarrer la première partie sur qu'est-ce que l'endométriose pour mieux comprendre la maladie.
Alors moi je m'appelle Marianne, je travaille à la ville de Paris, à la direction de la voirie.
Vous avez appris quand que vous aviez de l'endométriose ?
Alors j'ai été diagnostiquée fin 2018, en novembre 2018 exactement. J'ai aujourd'hui 43 ans. J'ai toujours eu des règles très douloureuses. Il se trouve qu'en 2018, en fait, en avril 2018, j'ai eu un accident de la route, après lequel j'ai eu des règles pendant 3 mois. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à chercher, mais je n'avais jamais entendu parler d'endométriose au préalable.
Comment ça se passe au quotidien, pour vous qui avez l'endométriose, au travail? Quels sont les problèmes que vous pouvez constater?
Alors, je vous cache pas que c'est pas facile. En fait, j'ai quand même un métier de terrain et je suis dans un bureau partagé. Donc, on rase les murs, on se cache, on passe un peu de temps dans des petits recoins. Et voilà, c'est un quotidien qui est assez difficile en période de crise, surtout. Très sincèrement, je suis dans un milieu quand même très masculin. Donc, c'est un sujet que je n'aborde pas. Je prends sur moi et puis je me cache dans mon petit bureau.
Vous n'osez pas en parler parce que c'est pas encore une maladie qui est assez connue?
Alors, elle est pas assez connue. Et puis, bon, ça dépend aussi du degré de relationnel que j'ai avec mes collègues. Donc, je vais pas m'expliquer plus que ça, mais même eux le ressentent. Je commence tout juste à parler à mon encadrant de la maladie. Après, c'est vrai qu'on n'a pas un contact qui nous permette la confidence. Donc effectivement, je suis en train de chercher son écoute. Donc je profite de cette journée là d'échanges et de discussions, en tout cas avec les hautes instances de la ville. Maintenant, ça lui donne une pièce aussi sur l'enjeu qui est le mien. Et du coup, c'est là que je vais me permettre d'évoquer un peu plus la maladie et les contraintes qui y sont liées, quoi. Et du coup, ça me donne un élan pour en parler plus librement et assumer complètement cette maladie que jusque-là, je gardais cachée, quoi.
Je vois qu'il y a des questions qui arrivent sur le chat. Et puis, si vous souhaitez lever la main pour des questions dans la salle, monsieur. C'était concernant la pilule. Mettez bien près, s'il vous plaît, le micro. Comment articuler l'endométriose et vie professionnelle? Je pense que la directrice des ressources humaines va nous rejoindre.
Je m'appelle Frédérique Lancestremer, je suis la directrice des ressources humaines de la ville de Paris. Alors, en premier lieu, moi, je crois que l'employeur doit toujours s'investir sur les sujets de santé publique. L'information, la détection, on a des personnels qui parfois désertent le suivi médical et c'est très important pour nous de leur redire toute l'importance d'avoir un suivi régulier et puis leur faire découvrir des pathologies dont ils entendent parfois parler dans les médias ou leurs collègues peuvent leur en parler, mais avoir des informations claires, compréhensibles, c'est très important pour nous. À la ville, il y a deux canaux d'échange. Le premier, le plus proche, c'est son encadrant, son responsable. C'est très important de pouvoir aller discuter avec sa hiérarchie pour dire voilà ce qui m'arrive ou en tout cas j'ai une difficulté de santé et voilà l'impact que ça va avoir sur mon travail. Et le deuxième canal, c'est nos médecins. On a un service de médecine avec des professionnels, des médecins, des infirmières très formés et qui là peuvent accompagner dans le parcours de soins d'une partie et d'autre part dans l'impact que ça a sur le quotidien du travail des agents.
L'endométriose, c'est la deuxième cause d'une prise d'un arrêt maladie chez une femme. Ça, comment finalement on peut essayer de se débrouiller quand on est par exemple chef d'équipe? Parce que finalement c'est assez compliqué et c'est une maladie qui est un petit peu au cas par cas. Comment on peut trouver une solution?
Alors moi je pense qu'en premier lieu, il faut déculpabiliser. Quand on n'est pas en état de venir travailler, il faut s'arrêter, il faut rester chez soi et il faut l'assumer en se disant que ça fait partie de la vie. C'est pour ça qu'il y a des arrêts maladie. Et surtout, je crois qu'il ne faut pas culpabiliser les gens qui s'arrêtent ou se dire il faut absolument venir à tout prix. Après, effectivement, ça peut être compliqué à prévoir, compliqué à anticiper. C'est pour ça que le dialogue avec l'encadrant, avec le médecin est important pour que l'impact soit le moins lourd possible pour les collègues. Plus on se parle, plus on se comprend, plus on arrive effectivement à se dire « moi je vais m'absenter parce que je vais être hospitalisée ou parce que je vais avoir des soins » et que c'est partagé, mieux les choses se passent. Ça veut dire qu'on est capable, avec son encadrant, d'avoir une discussion sur bah, « ce mois-ci, voilà, je ne vais pas être là, je ne vais pas pouvoir participer à des réunions tel jour, ça te convient ?» Et puis on fixe les jours comme ça. Moi, je pense que c'est vraiment totalement en phase avec les attentes des agents aujourd'hui.
Là, j'ai un témoignage assez révélateur. Une de mes collaboratrices souffre d'endométriose. Elle est très discrète et ne souhaite pas solliciter la médecine préventive ou s'arrêter. En tant que manager, je suis un homme, quel aménagement puis-je lui proposer spontanément lors d'une discussion privée, bien entendu?
On retrouve le docteur Éric Petit. Ça fait 30 ans qu'il milite pour faire connaître la maladie. Il déplore notamment le manque criant de formation des professionnels de santé depuis toutes ces années.
Bonjour.
Autour de quelles années vous commencez à vous intéresser à la maladie?
Dans les années 90. Donc, ça fait donc plus de 20 ans que je me suis donné cet objectif d'être un spécialiste de cette maladie. L'endométriose, j'ai été motivé pour des raisons personnelles, de prise de conscience que c'était une maladie beaucoup plus fréquente qu'on nous disait. On n'a pas été formé à ça au cours de nos études de médecine. Et c'est au cours de l'internat que je me suis aperçu qu'il y avait peut-être une maladie très fréquente, totalement sous-estimée, négligée. Quand j'étais de garde, notamment, un des déclics a été qu'on me disait que les femmes qui arrivent la nuit en se plaignant de leurs règles, c'était des folles et des hystériques. Et donc ça m'a un peu choqué. Et donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à creuser, à découvrir, et il y a mieux à faire que de les traiter d'hystériques. Bon, donc voilà, ça a été un des éléments motivants mon parcours ensuite.
Concrètement, quand dans les années 90, vous dites à vos collègues, voilà, je vais travailler sur, je crois en tout cas qu'il y a une maladie féminine gynécologique qui existe, comment on réagit dans votre entourage proche?
Non, mais à l'époque, c'était après les années 90, dans les années 2000, où j'ai formulé les choses, et notamment l'hiver, je me souviens très bien, 2006-2007, à mes collègues hospitaliers, je leur ai dit, il est temps, je vous propose, on était quatre au départ, hein, trois, je leur ai proposé de créer un centre de l'endométriose. M'y croyaient pas trop. Voilà, ça c'est vrai. La réception a été sceptique de leur part, parce qu'ils disaient « bon, tu crois qu'on va en avoir tant que ça ?» Je dis « tu vas voir ». Et après, ils m'ont rappelé ça 10 ans plus tard. Si on avait cru à quel point on serait noyé par un tel tsunami d'arrivées de patientes, on n'aurait jamais signé le contrat. Parce qu'ils se sont vus le niveau monter, ils m'ont dit « c'est terrifiant, il y en a tant que ça ». Il fallait mettre la pression sur les professionnels de santé. Ça, plus le partenariat avec les associations de patientes. Ça, c'est très important. Et c'est comme ça qu'on a pu avancer sur le sujet.
Donc là, on est dans les années 2010-2015.
Oui, 2000, voilà, ça, ça, tout à partir des années 2010, ça a été crescendo jusqu'à la première campagne de sensibilisation nationale en 2016. Parce que les autorités de santé, en particulier, se sont aperçues qu'effectivement, il y avait une maladie qui coûtait très cher à la nation. Parce que c'est quand même 10 milliards d'euros par an en France. Par défaut surtout de productivité, puisque c'est la deuxième cause d'arrêt de travail. Pour la femme, c'est colossal. C'est une cause d'arrêt de travail de 33 jours par an et par femme. Donc c'est énorme. Indépendamment des problèmes de santé que ça pose pour les patientes et les coûts que ça nécessite, parce qu'on opère encore beaucoup trop ces patientes, donc ça coûte encore très cher. Donc il faut dépister le plus tôt possible, voilà. Parce que le diagnostic est encore retardé en moyenne de 10 ans.
Est-ce que c'est ça l'urgence ?
Oui, il faut absolument raccourcir ce délai, c'est considérable. Pour une jeune femme, 10 ans de retard diagnostique, c'est énorme. Surtout qu'il y a l'infertilité qui peut être en jeu derrière. Donc c'est très tôt, dès l'adolescence, qu'il faut y penser.
L'endométriose va être pour la première fois étudiée dans le parcours de médecine. Oui. C'est pas trop tôt ?
Oui, c'est vrai. Hallucinant. Hein. On n'a jamais entendu parler de ça.
C'est fou, quand même.
Et moi, je me souviens des aînés qui me disaient « Monsieur, une maladie exceptionnelle, t'en verras jamais. » C'était présenté comme vraiment une maladie rare. En fait, bon, ça a toujours été très fréquent.
On comprend mieux aussi, quand on voit que c'est la première fois que c'est étudié en France, pourquoi il y a autant de femmes qui racontent qu'elles ont vu 1, 2, 3, voire 7 gynécologues qui leur ont dit bah « Non, écoutez, vous n'avez pas de problème. »
Bien sûr. Il y a une sorte d'omission de la maladie, ou de négation même parfois. Et donc là, ils n'ont pas seulement vu que des gynécologues, leurs praticiens généralistes aussi, ou des gastro-entérologues, parce qu'elles consultent beaucoup par d'autres voies d'entrée, hein, parce qu'elles ont des troubles digestifs ou des troubles urologiques. Donc, et alors, si déjà le gynécologue n'a pas la notion de cette maladie bien précisément, alors imaginez le rhumatologue, la gastro-entérologue et l'urologue, encore moins. Hein.
Donc, ça peut devenir un peu un parcours du combattant.
Ah oui, y en a qui arrivent avec des dossiers monstrueux, avec 36 000 examens, et ça fait 10 ans que ça dure. Et là, vous avez compris que c'est une endométriose, vous êtes sûr. Hein. C'est la seule maladie qui n'est pas. C'est quasiment. Je vois pas d'autres exemples où on traîne autant pour faire un diagnostic, quoi.
Donc l'enjeu, c'est formation et sensibilisation.
Voilà. Sensibiliser, former, non-stop. Les radiologues en particulier, le problème, c'est que la plupart du temps, la fin de l'examen se termine par « Madame, je ne trouve rien, c'est rien, c'est dans votre tête ». Donc ces femmes sont isolées dans leurs symptômes et dans leurs souffrances, puisqu'elles ne sont pas prises en compte. Ça fait 4000 ans que ça dure. Hein.
Aujourd'hui, on dit que l'endométriose touche une femme sur 10. Est-ce que ça ne va pas devenir plus en fait on diagnostique ?
C'est probablement plus qu'un sur 10 en fait. Ce chiffre est probablement sous-estimé, mais on peut pas l'affirmer. Des chiffres indirects, d'études diverses, nous font penser que c'est plutôt une sur 7, voire une sur 5. Mais pour l'instant, on peut pas l'affirmer noir sur blanc.
Nous sommes à Nanterre, juste devant le café, nous attend Yasmine Kando. Elle est elle-même atteinte d'endométriose et c'est la présidente de l'association EndoFrance, une association qui s'est créée en 2000 ans. Yasmine Kando, bonjour.
Bonjour Manon.
Vous êtes la présidente de l'association EndoFrance, elle informe sur l'endométriose depuis 2000 ans. Et quelles sont vos missions ?
Alors, nos missions principales, c'est soutenir, informer, agir. Donc, on va soutenir les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage, en leur offrant des espaces de parole, des groupes de discussion, des actions spécifiques. Et puis, on va informer le grand public sur la maladie, par le biais de tables rondes avec des professionnels de santé, des conférences avec des médecins. Et on va agir de concert avec les pouvoirs publics et les professionnels de santé pour améliorer le parcours de soins, en faciliter l'accès et réduire le délai de diagnostic qui est encore trop long aujourd'hui.
Le ministre actuel de la Santé, Olivier Véran, a promis de lancer très rapidement, ou en tout cas sous peu, le plan de lutte nationale contre l'endométriose. Qu'est-ce qu'il pourrait comporter ?
Le plan, il va comporter 5 axes. Le premier, c'est la communication et la sensibilisation des publics, bien évidemment. Le deuxième, et le plus important à nos yeux, c'est la formation des professionnels de santé. Le troisième axe, ça va être de travailler tout autour du diagnostic et du dépistage. Le quatrième axe, c'est le parcours de soins. Et le dernier axe, très important, ça va être la recherche.
Pourquoi la recherche, c'est important aujourd'hui ?
C'est important la recherche parce que aujourd'hui encore on ne connaît pas les causes de l'endométriose. On ne sait pas dire exactement d'où vient cette maladie, pourquoi 10% de la population avec utérus en est atteinte. Et on a besoin de comprendre cela pour pouvoir diagnostiquer plus précocement et puis aussi peut-être mettre en place des traitements efficaces qui n'ont pas autant d'effets secondaires. Aujourd'hui on n'a pas d'enveloppe dédiée à la recherche endométriose en France. On a une enveloppe globale sans de la femme, dans laquelle toutes les pathologies féminines viennent piocher, mais il n'y a pas forcément de choses spécifiques pour l'endométriose.
Le problème, c'est qu'en tout cas, là, ces dernières années, il y a uniquement les associations, qu'on soit bien clair, qui ont financé la recherche et la lutte contre l'endométriose.
Oui, tout à fait. La lutte contre l'endométriose, elle est partie du terrain, en fait. Elle est vraiment partie des patientes. Je crois que la prise de conscience, elle a été très tardive. Je me souviens que lorsqu'on a rencontré Agnès Buzyn, qui était ministre de la Santé en 2019, il y avait un des directeurs de recherche de l'INSERM qui était présent à cette réunion et qui lui a dit « Madame Buzyn, je vous ai envoyé une demande de financement pour une étude sur le cancer de la prostate. Vous m'avez débloqué 200 000 euros. Je vous ai envoyé une demande de financement pour une étude sur l'endométriose, pathologie qui touche une femme sur 10, etc., etc. Je n'ai jamais eu de réponse. » Et là, Agnès Buzyn a dit « Ah, je vois le problème. »
Donc là, si j'ai bien compris, les deux enjeux pour les 10 prochaines années, ou en tout cas les 5 prochaines, c'est la formation et la recherche.
Formation, recherche, c'est fou quand on y pense. On existe depuis 20 ans et voilà, il faut attendre 2021 pour que des médecins entendent parler correctement d'endométriose dans des cours à la fac.
Mais ça aura pris 20 ans quasiment.
Mais ça aura pris quasiment 20 ans, effectivement.
Endométriose, la maladie féminine qui sort enfin de l'ombre, c'était un reportage de Manon Vautier-Cholet. Prise de son Romain Lequiens et Georges Thau. Réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier. Mixage Jean-Louis Deloncle. Un reportage que vous pouvez dès maintenant réécouter sur franceinter.fr.